Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Christa Leuc.
Canal Academy et l'Alliance française entretiennent des relations privilégiées et nous vous proposons sur notre antenne une série d'entretiens avec les représentants de l'Alliance française dans le monde, sans exclure ceux de notre hexagone. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Sylvie Vidal, directeur de l'Alliance française à Marseille-Provence, et Monsieur Dominique Vague, directeur de l'Alliance française à Rouen. Bonjour Sylvie Vidal et Dominique Vague.
Bonjour.
Il est vraiment plus courant et plus connu de trouver les alliances françaises à l'étranger, mais en France, c'est quand même plus surprenant. L'Institut de l'Alliance française fut créé en 1883 par Paul Cambon et Pierre Fonsin pour, ouvrez les guillemets, propager la langue française dans les colonies et à l'étranger. Une première question s'impose donc tout naturellement. Pourquoi une alliance française en France ? Madame.
Alors déjà, je reviens sur la création d'écoles à l'étranger. L'Alliance française de Marseille a été créée en 1889 et elle est à l'origine d'écoles de langue française en Syrie, au Moyen-Orient, au Maroc. Et c'est vrai qu'après, elle est devenue une alliance enseignante à Marseille après la guerre de 40. Donc pourquoi une alliance française en France ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des étrangers qui vivent en France.
Et qui ont envie d'apprendre
le français. Oui. Tout à fait.
C'est Georges Duhamel en 45,
tout
c'est ça, qui a ouvert les cours de français pour les étrangers.
Absolument.
Oui, c'était une très très bonne idée. Et Dominique Vague à Rouen,
donc,
comment ça s'est passé ?
L'Alliance française de Rouen était un petit peu plus jeune. Elle a été créée qu'en 1907 et elle agissait comme beaucoup d'alliances françaises de l'Hexagone à l'époque, puisque il y en a eu quand même plusieurs dizaines, comme un organisme de levée de fonds pour soutenir un petit peu le mouvement de propagation du français dans les colonies et à l'étranger, celui qu'avaient voulu nos pères fondateurs. Après l'éclipse de la Seconde Guerre mondiale, l'Alliance française de Rouen ne s'est recréée que dans les années 1980, d'abord sous la forme d'un centre d'aide pour les étudiants étrangers qui étudiaient à l'Université de Rouen, toute jeune à l'heure. Donc cette association s'appelait l'Association des rencontres internationales de Normandie, et cette association a obtenu en 1986 l'agrément de l'Alliance française de Paris et est devenue une Alliance française enseignante de plein droit.
Parce que nous pouvons peut-être ici informer nos auditeurs à nouveau comment s'organise l'Alliance française. Donc il y a une maison mère à Paris qui gère, on vient d'apprendre, les alliances françaises en France. Et je crois qu'il y a un certain nombre, de combien à peu près, d'une vingtaine je pense.
Oui, actuellement, il y a environ 33 comités en France, mais nous avons simplement 13 alliances enseignantes en France. Donc
oui,
nous avons aussi encore des alliances qui sont des alliances plutôt à vocation culturelle et des alliances qui ont ajouté la dimension enseignante à cette vocation culturelle.
Oui, mais comme je disais tout à l'heure, il est plus connu de trouver les alliances françaises à l'étranger. Donc dans tous les pays du monde où la France exporte son rayonnement, on peut dire, son enseignement de la langue et la culture. Vous êtes en Normandie, vous avez principalement des Britanniques par exemple ?
Nous n'avons pas autant de Britanniques que notre proximité avec les îles pourrait le laisser supposer. Notre principale fréquentation vient du Japon.
Ah bon.
33% de nos étudiants en 2004, 32% des étudiants en 2005 étaient des Japonais, et des Japonaises surtout, qui venaient pour des séjours plus ou moins longs, en moyenne de 4 semaines, pour apprendre le français.
Quelle en serait la raison de cette attirance Japonais et Japonaises pour Rouen, enfin pour la Normandie ?
Les raisons sont multiples. Je dirais que d'une part, il y a un phénomène de bouche à oreille qui fonctionne très très bien. Nous sommes très connus au Japon et ça fait que beaucoup d'étudiants viennent sur la recommandation de quelques-uns de leurs amis. Je crois aussi que la ville de Rouen offre l'attrait d'une vie en province avec tout ce que ça comporte et la proximité de Paris puisque nous ne sommes qu'à une heure de train de la capitale.
Évidemment, c'est un avantage. Et Sylvie Vidal, je répète, vous êtes la directrice de l'Alliance française à Marseille et Provence. Vous avez aussi des étudiants d'un pays en particulier ?
Alors nous, ça évolue chaque année. En fait, cette année, on a eu essentiellement des Européens, donc majorité d'Espagnols, d'Italiens, d'Allemands. Il y a 3 ans, c'était les Vietnamiens et les Chinois. Donc nous, c'est en constante évolution. On a pas mal de Japonais aussi parce qu'on a un accord avec une université à Kyoto. Mais c'est vrai que l'année dernière, sur l'année 2005, on a 62 nationalités qui sont représentées. Donc sur à peu près 628 étudiants, si j'ai bonne mémoire.
Par an.
L'année dernière, je parle de l'année 2005, oui. On a 62 nationalités représentées.
Ah oui.
Mais une majorité cette année, pourquoi je n'en sais rien, d'Européens.
Mmh.
Voilà.
Et donc, oui, qui désire essentiellement apprendre le français.
Oui.
Et alors, justement, en parlant de vos méthodes d'enseignement, j'imagine que vous vous êtes ouvert depuis un certain temps aux nouvelles technologies.
Bien sûr.
Donc, vous avez un enseignement audiovisuel,
absolument,
j'imagine. Et vous avez des petites classes, des grandes classes, comment ça se passe?
Non, en général, à l'Alliance française, et Dominique ne va pas me contredire, on a des classes qui se situent entre 10 et 15 étudiants maximum. Voilà, parce que pour faire de l'enseignement du français langue étrangère, il ne faut pas être nombreux. Donc ça, c'est vrai que c'est une qualité de rigueur et de, j'allais dire, qu'on s'impose, parce que c'est vraiment important. L'enseignement du français langue étrangère, ça n'est pas l'enseignement du français. Ça n'a rien à voir.
Peut-être que vous pouvez nous expliquer un petit peu les secrets et les différences de l'enseignement du français dans une école publique ou privée ou à l'université ou l'enseignement du français pour étrangers.
L'un des grands avantages que nous offrons à nos étudiants qui viennent quelquefois de l'autre bout de la planète pour étudier chez nous, c'est un fait d'immersion totale, c'est-à-dire que nous avons coutume de leur dire que à la fin de leur séjour, ils mangeront et rêveront aussi en français. Les étudiants arrivent généralement pour un volume horaire de cours qu'ils ont choisi avant leur arrivée et ne se rendent pas compte que en vivant dans une famille d'accueil, en partageant sa vie quotidienne, l'apprentissage du français va être extrêmement rapide, extrêmement profond en même temps. Donc nous assurons effectivement les cours avec des petits groupes, comme le disait Sylvie. Nous avons en même temps énormément d'activités annexes, des activités de découverte touristique, des activités de découverte sociale, la vie quotidienne des Français. Et nous offrons aussi à ces étudiants en même temps tout ce qui concerne la vie au sein d'une famille française. Donc là, nous pouvons véritablement dire que l'apprentissage est complet, global.
Parce qu'ils sont souvent hébergés chez l'habitant.
Oui.
Ou est-ce qu'il y a aussi éventuellement une possibilité d'internat ou
alors, il existe effectivement des possibilités de s'héberger dans le parc locatif privé de la ville, dans des structures universitaires lorsqu'elles sont disponibles. Mais en règle générale, nous incitons très fortement nos étudiants à rejoindre une famille, ce qui nous permet aussi une certaine tranquillité. Nos étudiants sont loin de chez eux.
Oui, vous ne remplacez pas complètement les parents.
Non, voilà. Mais on essaie quand même de tendre vers un confort affectif quand même aussi. En fait, on en est responsable de nos étudiants.
Oui, ce sont en général des étudiants majeurs,
mais quand même, on se sent une responsabilité. C'est un peu comme si c'était les nôtres, quand même.
Voilà, écoutez, ça doit créer des microcosmes.
Des grands moments de bonheur, surtout. Nous, on est obligés de se remettre en question en permanence. Et j'avoue que, vraiment, souvent, on participe à leur vie. On essaie de les faire se sentir bien chez nous. Je crois que c'est très important, l'hospitalité. C'est notre rôle. Et c'est pas simplement enseigner le français à l'étudiant, c'est aussi lui apprendre ce que c'est que la vie en France. Mmh. Et c'est pour ça que là, je rejoins complètement Dominique. La vie en famille d'accueil est un excellent moyen pour permettre à l'étudiant de progresser en français.
Et quand je parlais de microcosme, j'imagine que ça doit créer aussi par moments quand même pas mal de conflits entre les différentes cultures.
Jamais.
C'est une cité idéale, alors on atteint l'utopie.
Oui, absolument.
Notre plus grande fierté, c'est de voir deux étudiants de la même nationalité expliquer l'un à l'autre en français ce que l'autre n'a pas compris.
Les particularités de son pays natal.
Mais il arrive très fréquemment que nous ayons ensemble, dans la même école, des étudiants qui viennent de pays qui sont en conflit ou en guerre ouverte. Et ça ne pose aucun problème chez nous à partir du moment où ils sont dans l'école. Et
oui, j'imagine, à Marseille, vous avez quand même pas mal
c'est quand même une vie
ressortissants du Moyen-Orient.
Pas tellement curieusement,
du Maghreb,
alors
non
que non. Comment parce qu'ils
parlent
ont...
beaucoup français.
Et
déjà,
voilà, ouais. Déjà, forcément, ils ont. Ouais. Et puis en plus, ils ont des problèmes de délivrance de visa qui sont assez drastiques. Mmh. Mais c'est vrai que moi, il m'est arrivé l'année dernière d'avoir un moine bouddhiste dans un cours, deux sœurs catholiques, un pasteur protestant, un Israélien, et je n'ai jamais entendu aucun problème, jamais. Je crois que le problème ne s'est jamais posé dans aucune alliance. On est là pour le même intérêt,
pour la même motivation, sinon une sorte d'idéal.
Mais c'est vrai que ça peut exister.
Une petite bulle dans la vie.
La preuve, ça peut exister. Donc notre rêve, c'est de ben de propager cette ambiance.
Parce que voilà. C'est quand même un tout petit peu des vacances dans leur vie, disons.
Alors c'est vrai que ce sont des gens qui sont là pour se faire plaisir. Sauf les étudiants qui intègrent après un cursus universitaire et qui sont obligés donc d'atteindre un certain niveau. Mais sinon, ça n'a rien à voir avec une école normale.
Justement, vous parliez de niveau, Sylvie Vidal. Vous avez donc l'enseignement de base, l'enseignement général,
absolument,
standard, et puis plusieurs niveaux de cet enseignement général, mais aussi, je crois, un programme spécifique pour les différents domaines, comme par exemple le français des affaires ou du tourisme,
absolument,
ou le français scientifique. Donc, vous avez énormément de facettes dans votre enseignement.
Et il y a donc... On est obligé de se calquer sur les demandes et les besoins des gens. Hein.
Si vous voulez, pour l'enseignement du français à proprement parler, nous avons décidé tous d'adopter ce que nous appelons le cadre européen commun de référence des langues, qui avait été adopté par le Conseil de l'Europe il y a quelques années, et qui aujourd'hui s'impose à tous les centres sérieux d'enseignement du français ou d'enseignement de langue étrangère. Cela concerne donc surtout le français général. Mais effectivement, nous avons énormément de cours de français sur objectifs spécifiques. On peut trouver, selon les alliances françaises que l'on visite en France, aussi bien des cours de français de l'art, français de la cuisine, français de la gastronomie, français militaire, français médical, français juridique. Nous avons effectivement beaucoup, nous préférons appeler français sur objectifs spécifiques.
D'accord.
Et si vous voulez, je voudrais aussi revenir un petit peu sur notre fréquentation. Lorsque nous faisons des statistiques, nous nous apercevons que effectivement, pour une majorité de nos étudiants, donc encore une fois, qui font la démarche spécifique de venir en France pour apprendre le français, il s'agit de vacances linguistiques. Cela représente quand même à peu près 60% de notre fréquentation pour ce qui concerne l'Alliance française de Rouen. Une autre partie est constituée d'étudiants qui vont intégrer un cursus universitaire et qui vont devoir apprendre le français. Donc là, nous allons ajouter à peu près 25%. Et sur les 15% restants, nous allons trouver à la fois des travailleurs étrangers expatriés et des conjoints de français qui se sont établis en France et qui désirent aussi apprendre un petit peu la langue française. Cela manifeste vraiment, au sens propre, le désir de vivre en France et de s'intégrer dans une société française. Donc là aussi, nous avons un rôle très important par rapport à cela.
Est-ce que le président de la République ne vous a pas déjà décerné la grande médaille du mérite ?
Pas encore.
On
a l'espoir.
Alors, puisque nous sommes aujourd'hui au début du mois de mars et que vous savez que notre président rentre de deux voyages officiels, dont la visite en Arabie Saoudite, il faut aussi avoir bien présent à l'esprit que le français, langue étrangère aujourd'hui, est presque une denrée d'exportation, je dirais, ou une source de revenus pour notre pays, dans la mesure où on peut aussi encourager des étudiants étrangers à venir faire leur primo-formation ou perfectionner leur formation dans le système universitaire français. Pour cela, ils auront besoin de parler le français. Et nous avons, par exemple, en ce moment, entrepris des démarches pour que des étudiants intègrent des cursus dans les facs de médecine françaises, qui sont quand même reconnus partout dans le monde pour la haute qualité de leurs études.
Oui.
Bien entendu, ces étudiants étrangers doivent maîtriser le véhicule linguistique avant cela. Et nous sommes chargés, dans un certain nombre de domaines, de réaliser la primo-formation linguistique des étudiants étrangers qui, ensuite, deviendront des médecins, retourneront dans leur pays. Et comme la médecine française est quand même tout à fait réputée dans le monde, il faut aussi qu'ils aient appris le français en arrivant.
Oui, et c'est là où justement la question se pose, comment on se défend, ou comment vous vous défendez contre l'anglais, contre la dominance ou la prédominance de l'anglais.
On ne la nie pas, la prédominance de l'anglais, parce qu'elle existe. Mais il y a une très jolie phrase qui a été écrite par une des alliances de France, et qui pour une fois met la langue française à l'honneur, en disant, je ne sais pas, c'est pas Vichy, qui disait... L'anglais est une langue de moyens, le français est une langue de culture. Et c'est vrai qu'on s'envoie un peu des fleurs en disant ça, mais je crois que c'est l'anglais. L'anglais, de toutes les façons, c'est comme ça. C'est une langue actuellement universelle, mais ça ne veut pas dire que les autres langues n'existent pas. Et ça, c'est vraiment important. C'est là que l'Alliance française a un rôle à jouer, très certain.
Et donc, vous êtes en mission de défendre une autre belle langue, parce que ma langue maternelle est l'allemand, mais je suis aussi, on peut dire, un produit de l'Alliance française, où j'ai appris
vous avez
le français
Goethe,
comme
vous, qui
langue étrangère.
Le même rôle que l'Alliance française.
Absolument.
Voilà.
Oui. Donc, on fait beaucoup de promotions par les diplomates à l'étranger pour motiver le reste du monde de l'importance, non seulement au plan culturel du français, mais aussi pour défendre la langue scientifique en français.
Je crois que pour ce qui concerne le français scientifique, nous avons souvent l'habitude de rencontrer des médecins étrangers dans le système hospitalier français. Vous savez, aujourd'hui, quand vous allez dans un hôpital en France, vous rencontrez quand même beaucoup de médecins étrangers. Au moment de leurs études, ils vont pouvoir parler l'anglais sans aucune difficulté. Tous les médecins français parlent aussi l'anglais, donc il n'y a pas de problème. Mais quand on va s'adresser à un malade qui est sur son lit, c'est quand même beaucoup mieux si on peut lui donner quelques mots en français et surtout le comprendre en français.
Alors, dans votre Alliance française, vous consacrez vos activités principalement à l'enseignement, donc langue française, langue étrangère, mais également, et peut-être tout aussi important, sont les activités culturelles.
Alors, vous avez les visites de la ville, bien sûr, les visites des monuments de la ville, parce que un cours peut même être ciblé sur ces visites-là, en fonction du présent ou du futur ou du passé composé. Moi, je ne suis absolument pas professeur, mais ils me l'ont expliqué.
Oui.
Mais on a aussi un cycle de conférences. Là, par exemple, c'est l'année Mozart en ce moment. Donc, on a ciblé Mozart. Et en même temps, si vous voulez, il est très important que nos étudiants puissent connaître, au-delà d'un cours, ce qu'est la culture française. Donc, tout ça passe par un système, où on les accompagne chaque fois d'apprentissage de la culture française.
C'est-à-dire ils sont avec vous plus ou moins toute la journée, alors ils font des cours théoriques.
Par exemple, le matin, ça peut être un exemple, et l'après-midi en visite.
Oui.
Ils sont associés à toute manifestation culturelle que peut organiser l'Alliance, à une visite d'exposition, une visite de musée, mais toujours entourés.
Mais vous avez beaucoup de concurrence au niveau culturel dans une ville comme Rouen ou encore plus comme Marseille, j'imagine.
Oui, mais nous avons aussi une richesse culturelle tout à fait importante qui nous permet à chaque fois de proposer des activités à nos étudiants. Donc, comme disait Sylvie, nous pouvons leur faire découvrir les monuments de notre ville, les monuments de notre région, les paysages, les musées de province sont aussi très riches. Nous avons toujours l'habitude de venir à Paris, même nous, pour voir les expositions et les musées, mais les musées de province sont aussi très riches. Et nous pouvons véritablement proposer une découverte large de la culture française à nos étudiants de cette façon-là.
Et est-ce que vous faites venir aussi des troupes de théâtre ou vous leur offrez des spectacles ou des découvertes des chansons?
Alors, à proprement parler, nous ne faisons pas venir de troupes, ni de théâtre, ni de chanteurs, mais nous avons systématiquement un allotement de places dans les événements qui sont organisés par les autorités régionales ou par les entrepreneurs de spectacles régionaux.
Oui.
En ce moment, par exemple, un festival du cinéma, eh bien, il y a des places pour nos étudiants.
Oui, donc il y a une bonne synergie entre les institutions culturelles locales
pareil,
et l'Alliance
française. Théâtre de la Criée à Marseille, qui est venu nous contacter en nous disant, bon, il y a des places réservées pour vos étudiants. C'est quand même, non, on est suivi là. C'est très très agréable de se sentir soutenu.
Et les étudiants restent généralement une année entière?
Non. Nous, on a une durée moyenne à Marseille de 3 mois. Mais les étudiants peuvent rester 8 mois. Ils peuvent rester, il y en a qui reviennent d'une année sur l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils ont basé à Marseille, qu'ils ont, par exemple, épousé un Marseillais ou qu'ils ont décidé de vivre à Marseille. Si on prend l'exemple de l'ingénieur de chez Eurocopter, lui, forcément, ça sera la durée de son stage chez Eurocopter. C'est extrêmement variable.
Oui.
Je pense que tu me rejoins là, Dominique, aussi.
Oui.
Et quel regard, disons dans la majorité, vos étudiants portent-ils sur notre beau pays et sur ses multiples facettes? Est-ce qu'ils s'impliquent dans la vie culturelle beaucoup ou pas beaucoup, et dans la vie politique éventuellement?
Alors je crois que pour paraphraser un homme célèbre, nos étudiants arrivent avec une certaine idée de la France. Mais je pense que aucun Français, et même nous, en dehors de l'Alliance, nous n'imaginions pas cela. Aucun Français ne peut imaginer la qualité de l'amour que nous vouent les étrangers. Et je crois que le mot n'est pas trop fort.
Je le certifie.
C'est simplement, je voudrais attirer l'attention des Français en général sur le fait que nous ne devons pas décevoir les gens qui, sans même parfois nous connaître, ont une telle attirance pour notre pays, sa culture, sa civilisation.
Oui, et pratiquement.
Je crois que les gens viennent aussi rêver en France.
D'accord.
Voilà.
Et là, je partage complètement l'avis de Dominique. Rien à rajouter.
Est-ce que vous sentez une grande différence quand vous vous rencontrez, par exemple à Paris, comme vous êtes venu aujourd'hui dans vos studios à Canal Academy? Est-ce que dans vos échanges, est-ce que vous sentez une grande différence dans la vie de l'Alliance française entre vous, Dominique Vague, à Rouen et Sylvie Vidal à Marseille?
Moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment très très proches, qu'on a le même genre. Après, chaque Alliance française est autonome, donc Dominique gère sûrement d'une autre façon que Marseille, mais j'ai l'impression que ce virus qu'on a attrapé, et qui est vraiment un virus, nous aide à voir les choses exactement de la même façon. On a cet esprit Alliance française, c'est difficile à expliquer d'ailleurs.
Qui est vécu, je crois, comme une mission vraiment, n'est-ce pas? Enfin, une mission dans le meilleur sens du terme, parce que j'ai eu l'occasion et le plaisir de rencontrer plusieurs colloques ou conférences de l'Alliance française, et j'ai toujours constaté en effet un esprit Alliance française très très dynamique. Oui. Toutes ces personnes semblent s'engager vraiment avec tout leur cœur pour une sorte de cause, mais évidemment le mot est souvent galvaudée, mais on sent que ça tient vraiment à cœur de travailler pour le rayonnement, la culture et la langue française. Et c'est pas quelque chose de théorique, mais quelque chose de très chaleureux et presque sensuel.
Oui, exactement. Le terme est bien choisi.
Quand quelqu'un d'étranger vous dit « je vous trouve très beau », que voulez-vous répondre?
Vous avez bien voulu témoigner de vos activités donc à notre antenne sur Canal Académie, la première web radio francophone dans le monde. Alors, de quelle manière pensez-vous que cette web radio pourra être profitable à votre enseignement ou à votre alliance? Les différents thèmes traités sur nos antennes, la pensée et la parole des académiciens de l'Institut de France, pensez-vous pouvoir vous en servir pour la promotion du français dans votre institution?
Sans hésitation. Hein.
Oui.
Sans hésitation.
Bon, mais écoutez, c'est un premier contact qui va, j'espère, être
porteur,
très fructueux.
Porteur.
Pour le
plein d'espoir.
Je pense que... il y aurait déjà peut-être une idée qui serait de diffuser votre adresse sur l'ensemble du réseau des alliances françaises, si je ne sais pas déjà
oui,
fait.
Oui, je pense que c'est déjà fait.
Et donc, effectivement, de bien signaler à tout le monde que vous existez et que nous puissions vous écouter et vous relayer.
Oui, bah très très bien. Je suis en compagnie de Sylvie Vidal, directrice de l'Alliance française à Marseille, et de Dominique Vague, directeur de l'Alliance française à Rouen. Je vous propose une petite pause avant d'enchaîner sur la deuxième partie de notre entretien.
Chaque lundi, les académiciens de l'Académie des sciences morales et politiques se réunissent dans la salle des séances de l'Institut de France. Ils écoutent une communication sur un thème choisi.
Pour les séances de l'année 2006, le président de l'Académie, Monsieur André Damien, a choisi le thème de la justice.
Sur Canal Académie en séance, vous permettra d'entendre, entre autres intervenants, Henri Amouroux sur la justice du peuple en 1944.
Maître Jacques Vergès, la passion de défendre.
La justice, thème de réflexion de l'Académie des sciences morales et politiques pour l'année 2006.
C'est chaque semaine dans En séance sur Canal Académie.
Je vous propose la suite de notre entretien avec Sylvie Vidal, la directrice de l'Alliance française à Marseille, et de Dominique Vague, directeur de l'Alliance française à Rouen. On va passer maintenant à la deuxième partie de notre entretien, car il s'agit de la francophonie et de la semaine de la langue française à l'intérieur d'un festival plus large de la francophonie avec les fameux 3F. Je crois que tous les deux vous êtes impliqués dans cette manifestation nationale, n'est-ce pas?
C'est extrêmement importante.
Sylvie Vidal, vous voulez nous parler de votre propre manifestation à Marseille? Parce que je crois que vous organisez des journées
absolument
très importantes.
Ah ben nous d'ailleurs, on a donc décidé de faire cette grande manifestation le lundi 20 mars, qui est vraiment le jour de la francophonie. Donc on a la chance de bénéficier déjà d'un cadre absolument extraordinaire à Marseille, qui s'appelle l'Hôtel Dieu, qui était autrefois un hôpital. Donc notre président est quand même professeur en chirurgie vasculaire, il y a sûrement une raison à ça, mais bon, c'est un bâtiment absolument exceptionnel qui est situé près du port à Marseille.
Oui.
Et nous avons décidé de convier des consuls, parce que Marseille est la deuxième représentation consulaire après Paris. Donc on a la chance d'avoir la représentation de tous ces consulats. Et nous avons donc essayé de faire venir à peu près tous les continents. Donc on en a 4 sur 5, mais bon... ils vont parler à peu près 10 minutes chacun de la francophonie dans leur pays telle qu'elle est vécue. Première partie de la réception, ces consuls qui viennent parler de la francophonie telle qu'elle est perçue dans leur pays. Donc nous avons le Bénin, le Cameroun, la Chine, les États-Unis, la Grèce, le Japon, le Liban et l'Uruguay. Et ces prestations des consuls seront suivies après par un entretien interactif avec une personne d'ailleurs qui fait des émissions de radio, et on va partir d'un mot, mais là pour le moment il nous a pas dévoilé exactement son jeu. On part d'un mot et les personnes interviennent dans la salle à partir de mots qu'il va lancer, donc exercice de langue française, et qui se terminera après par un concert de piano par monsieur Philippe Gate, qui est directeur des grandes orgues de la cathédrale de Marseille et qui naturellement jouera des œuvres françaises, francophonie se doit.
Donc ça se passe le lundi
20 mars, voilà, entre 17h et 20h30 et
à Marseille, à l'Hôtel Dieu, qui est un magnifique hôtel.
Et qui va malheureusement fermer pour devenir un hôtel de luxe. Bon, ça c'est très bien, mais c'est la dernière fois qu'on pourra y accéder en tant que particulier.
Pour vous y précipiter.
Voilà.
Oui. J'informe nos auditeurs de quoi il s'agit plus largement dans cette semaine de la langue française, qui normalement a lieu entre le 17 et le 26 mars 2006. C'est donc une semaine qui revêtira pour sa 11e édition un caractère un peu exceptionnel puisqu'elle marquera le coup d'envoi d'une saison entière consacrée à la francophonie. Le festival francophone, francophonie, comme je disais tout à l'heure avec les trois F. Ce festival qui dure du 16 mars au 9 octobre. Mm-hmm. Ça nous laisse un peu de marge pour organiser des manifestations. Chacun mettra en avant sa richesse et la diversité et la vitalité du français en général. Alors des manifestations sont conduites à l'initiative de tous ceux qui souhaitent s'impliquer à leur manière dans cette opération, des personnalités comme vous venez d'évoquer, par exemple donc à Marseille, les consuls de beaucoup de pays, ou les collectivités locales, les associations, les établissements culturels, les bibliothèques, les écoles, les entreprises et bien sûr les alliances françaises. Et alors vous parliez d'un mot, Sylvie Vidal, tout à l'heure. Je crois que c'est d'ailleurs tous les ans que c'est organisé autour de certains mots. On choisit, je ne sais pas, il doit y avoir un comité spécial qui choisit 10 mots autour desquels tout est ouvert, les jeux les plus divers, les concours probablement. Alors je vais vous les citer, ces fameux 10 mots qui sont cette année donc accent, badinage, escale, flamboyant, hôte, kaléidoscope, masque, outre-ciel, un mot inventé par Léopold Senghor, soif et tressé. Et d'ailleurs, j'en profite pour glisser un petit mot. J'ai soumis ce petit jeu à un de mes amis qui est écrivain, qui écrit de très jolies nouvelles. Et il m'a envoyé ce matin un texte, mais ça serait trop long pour vous le lire. Mais je peux vous l'offrir et peut-être vous pouvez le diffuser comme un petit exemple ou un échantillon dans votre alliance française. Ce festival de francophonie nous amène plus directement à la langue française, dont nous avons quand même déjà un peu parlé, mais plus directement dans la langue, on rencontre une très vaste problématique, parce qu'il y a la langue de Molière, il y a la langue pure, la langue des académiciens, mais aujourd'hui elle est quand même soumise à des traitements un peu brutaux ou cruels parfois. Le français parlé est quand même en grande évolution par la langue publicitaire, par la langue des jeunes, par la langue technocratique, par Internet, etc. Comment, dans votre enseignement et aussi dans ce que vous voulez transmettre à vos étudiants, outre la langue proprement dite, mais comment vous portez ce bébé qu'est la langue française pour qu'elle reste le plus pure possible tout en restant dans la modernité d'aujourd'hui?
Je crois qu'il n'est pas forcément question de garder une langue française très pure. Bien entendu, c'est notre objectif et c'est notre désir que d'amener les étudiants étrangers à parler une langue française qui soit la plus proche possible de la belle langue. Néanmoins, le premier intérêt, c'est quand même pour nos étudiants de parler, de se faire comprendre et d'arriver très rapidement à être des locuteurs libres en français. Donc, quelle heure est-il et quelle heure il est, par exemple, il est évident que l'étudiant a besoin de savoir l'heure qu'il est et pas forcément exactement la façon de le dire. Nous insistons quand même sur la correction du français. Hein. Il n'y a pas question de laisser un langage SMS se développer dans nos alliances, mais quand même, l'intérêt, l'immédiateté nécessaire, c'est d'être compris et de se faire comprendre. Nous avons cette année, parmi toutes les manifestations liées à la francophonie, la ville de Rouen célèbre le 4e centenaire de la naissance de Pierre Corneille, 6 juin 1606, donc nous sommes juste à côté. Oui. Et l'Alliance française de Rouen lance un concours à destination des francophones non natifs du monde entier, qui consiste en la réécriture de la première scène de la Place Royale. Et bien entendu, la langue de Corneille, 17e, la belle langue de l'époque,
oui,
est presque incompréhensible par quelqu'un qui n'est pas un francophone de naissance aujourd'hui. Donc on va demander à ces étudiants étrangers de se réapproprier ce texte et de le réécrire dans leur français d'aujourd'hui.
Après éventuellement 3 mois d'enseignement ?
Bien sûr.
Et donc qu'est-ce que ça
effectivement,
donne ?
C'est en cours, les résultats seront publiés le 20 mai. Enfin, les devoirs sont les contributions seront corrigées le 20 mai, les résultats seront publiés le 6 juin pour l'anniversaire de Corneille. Mais cela veut dire que nous allons expliquer bien entendu le vocabulaire qui a changé puisqu'il y a des mots qui sont totalement différents de sens. Mais aussi, il y aura une réécriture syntaxique à mettre en place pour ces étudiants. Et l'essentiel, ça sera qu'ils comprennent, qu'ils se comprennent et qu'ils se fassent comprendre.
Oui, c'est-à-dire qu'ils mémorisent essentiellement, j'imagine, l'intrigue. Et ensuite, donc, ils forment ça dans leurs mots plus ou moins réussis.
Mais en restant quand même près du texte et près des mots.
Et Sylvie Vidal à Marseille, quelle expérience avez-vous dans ce domaine, notamment donc au sujet, disons, d'une certaine déformation de la pureté du français.
Alors à Marseille, c'est peut-être plus difficile qu'ailleurs, parce que quand même c'est une ville extrêmement cosmopolite, donc nous on est vraiment obligé d'être très attentif. Mais ça, c'est vrai que c'est une exigence aussi, comme Dominique le disait, il n'est pas question de dire c'est quelle heure, même s'ils ont besoin de se faire comprendre, on a une exigence de qualité qui est vraiment très importante, et je vous dis peut-être plus difficile à atteindre à Marseille à cause de ce rôle cosmopolite et du nombre d'étrangers que nous avons.
Oui, alors on revient ici quand même à la classe, donc à l'enseignement pratique. Est-ce que dans tous ces accents du monde entier, et notamment à Marseille, comme vous venez de le dire, est-ce que vous avez une norme, une ligne pour imposer une certaine...
Non, en fait, ce sont les professeurs avec leur façon d'enseigner ce français langue étrangère qui arrivent tout à fait à des résultats qui sont même impressionnants quand on est extérieur, quand on n'est pas de la partie, mais il n'y a pas de méthode particulière pour éviter des pièges d'accent ou des pièges de faute de français, absolument pas. J'ai l'impression que tout se fait dans une certaine quiétude, en fait, qu'on retrouve partout, parce qu'en fait le système n'est pas
une
différent. Imprégnation, peut-être.
Une imprégnation du français. J'ai eu l'occasion, en voyageant en République tchèque, de rencontrer un jeune homme dans un petit village qui parlait français et qui avait appris à l'Alliance française de Toulouse et qui avait exceptionnellement l'accent de Toulouse.
Oui, mais il faut dire que les Slaves sont quand même assez doués. Mmh. En général, ils ont la réputation, comme leur langue est extrêmement difficile, ils apprennent, dit-on, très facilement les langues.
Il y a une question d'oreille aussi. Hein.
Oui, bien sûr. Oui, oui.
Mais nous avons reçu à Marseille un guide balinais qui n'avait appris le français que dans l'Alliance française à Bali. Il était devenu guide touristique pour des Français. Donc c'est quand même un très très bel exemple travail que peut faire l'Alliance française. Oui. Jamais mis un pied en France. Là, il venait à peine d'être invité en France. Il n'avait jamais mis un pied en France de sa vie. J'aurais voulu que vous entendiez cet homme parler. C'était même émouvant comme expérience.
Dominique Vague, pour revenir à ce festival de francophonie, enfin, et de la semaine de la langue française, vous prévoyez-vous aussi une activité particulière?
Bon, d'abord, je dois dire que cette opération est relayée par l'ensemble du mouvement des Alliances françaises, parce que nous sommes ici représentants de l'Alliance française de Marseille et l'Alliance française de Rouen, mais il y a aussi toutes les autres Alliances françaises de France. Et, par exemple, notre collègue de Lyon organise un festival de poésie. Donc chacun un petit peu à ses activités. Nous, donc à Rouen, nous allons d'une part en partenariat avec l'Association pour la promotion du français des affaires organiser le mot d'or, donc qui consiste à donner en français l'équivalent, j'ai pas dit la traduction, l'équivalent des mots du vocabulaire du marketing. Donc on va les donner dans la traduction du vocabulaire de la mercatique française.
Mercatique,
c'est la traduction de marketing.
Ah oui.
Et donc,
c'est pas très joli d'ailleurs.
c'est quelque chose qui a peut-être été un peu initié à l'origine par nos cousins québécois et qui aujourd'hui veut que pour un certain nombre de mots dont nous ne connaissons et n'utilisons que la version anglaise, nous cherchions un équivalent français ou francophone. Et ça va beaucoup plus loin puisque cette association aujourd'hui est en train justement de créer des mots dans plein de langues différentes, y compris le Swahili par exemple, pour justement avoir faire en sorte que chaque pays puisse avoir ses propres termes. Donc le mot d'or, hein, cette opération là, donc nous aurons une opération qui va se dérouler au Havre puisque nous avons aussi une école au Havre, et le 18 mars dans le courant de l'après-midi, il y aura cette opération qui sera à la bibliothèque municipale du Havre. Et d'autre part, donc nous participons aussi à l'opération des 10 mots de la langue française dont vous avez parlé il y a un instant. Nous demandons à nos étudiants de préparer quelque chose à propos de ces 10 mots et nous allons faire relayer pendant les 10 jours qui vont précéder le 20 mars, le jour de la francophonie, donc nous allons faire diffuser un mot chacun de ces jours-là avec la production de nos étudiants.
Ce serait intéressant de connaître les résultats, peut-être vous pourriez avoir la gentillesse de nous les faire parvenir.
Très volontiers.
Et si on a l'occasion de les passer à l'antenne de Canal Académie, ce serait très, très intéressant. Nous arrivons à la fin de notre émission, mais je voulais pas terminer avant de vous signaler un livre, une revue, mais sous forme de livre qui vient de paraître à propos de notre rencontre. Et il s'agit de l'International de l'Imaginaire, qui est édité par la Maison des Cultures du Monde, consacrée à cette langue qu'on appelle le français, et en sous-titre, l'apport des écrivains francophones à la langue française. Et c'est vraiment un extraordinaire recueil d'une trentaine d'écrivains étrangers venant de tous les continents, de tous les horizons, de l'Afrique, du Moyen-Orient ou encore du Canada, qui sont réunis ici dans une réflexion sur leur usage du français dans leur écriture. Et c'est publié par une édition qui s'appelle Babel, une collection de livres de poche. Alors je voulais juste vous en lire un petit passage d'une Libanaise. Peut-être vous la connaissez.
Inès Corrigata ?
Oui, tout à fait. Vous
la connaissez ? Qu'on a reçue à Marseille pour une conférence de prestige remarquable.
Ça fait toujours des rencontres.
Et le monde
ça
est petit parce qu'on l'a reçue l'année dernière à l'Alliance française.
C'est donc une des personnalités qui se prononce au sujet de la langue française qui est devenue sa langue d'écrivain. Et donc, je vous lis un petit passage comme par exemple, quel est ce lien qui relie entre eux des écrivains venus de tous les points de la planète, des Caraïbes à la Méditerranée, du Maghreb au Québec, tissant des parentés entre des êtres qui n'auraient jamais pu se rencontrer sans cette langue française devenue leur langue d'expression au détriment d'une langue maternelle dans laquelle ils puisent les odeurs et les saveurs de leurs écrits. Et un peu plus loin, où là elle dit « Inutile de chercher des ressemblances entre l'écriture de l'Argentin Hector Bianchiotti et celle de Georges Cheadé, Libanais bien connu, entre l'œuvre dramatique du Panaméen René de Obaldia, qui est de l'Académie française d'ailleurs, et celle du Tchèque Milan Kundera. » Donc il y a beaucoup d'écrivains fameux qui sont soit bilingues ou enfin qui sont étrangers et qui ont pris la langue ou qui ont choisi la langue française, comme le grand Beckett aussi. Et elle dit quelque chose de très touchant à la fin que je voudrais vous lire. Elle dit « J'écris comme on traduit. En tant que traductrice de mes pensées et de celles de nombreux poètes arabes, je dirais que ma langue maternelle est trop riche pour l'accorder au français trop cérébral. Je dois faire des combines, chercher des équivalences aux mots dont j'ai la nostalgie. Le français que j'écris porte les marques de tous les écarts que je n'ai pas pu surmonter. Mon problème, comment amener une langue excessive, exaltée, riche de métaphores fort et d'adjectifs vers une langue élaborée, raisonnée, rationnelle. Deux langues aux antipodes l'une de l'autre. » Voilà. Parfois, on taxe la langue française d'être très cérébrale, rationnelle, alors que c'est pas tout à fait vrai quand même. Et par rapport à l'arabe que je ne connais pas, mais j'imagine que ça doit être très très exaltant. En tout cas, je vous remercie infiniment d'être venu spécialement à notre studio. Dominique Vague de Rouen et Sylvie Vidal de Marseille, c'était un long chemin. Je rappelle à nos auditeurs que nous avons reçu les directeurs de l'Alliance française à Marseille, Sylvie Vidal, et le directeur de l'Alliance française à Rouen, Dominique Vague. Merci encore. Au revoir.
Merci à vous.
Merci.